près de toi, version nouvelle ou ancienne, je ne sais pas. Est-ce que c'est votre prière? Est-ce que c'est vraiment votre désir de dire, Seigneur, je veux être plus près de toi? Comment vous le vivez? C'est quand vous chantez plus près de toi ou quand vous lisez une parole comme approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous le considérez comment ça? Comme un commandement, comme une grande promesse? Est-ce que vous réalisez que c'est possible? Alors, ce soir, nous allons voir un sujet. On va lire dans Genèse un texte qui va nous introduire dans un sujet sur le fait de parler dans son cœur. Est-ce que vous parlez dans votre cœur? Dans la Genèse, au chapitre 24, il y a un fameux Eliezer qui fait une prière. C'est bien, vous allez voir. On va lire que ce qui nous intéresse. Alors, Genèse, chapitre 24, verset 42. Nous nous en disons des choses, non? Est-ce que vous vous parlez? Combien de choses vous avez pensées aujourd'hui? Alors, Genèse 24, verset 42. « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche », et qui me répondra, « Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Alors, si vous voulez marier, je vous conseille quand même de faire attention. Verset 45. « Avant que j'ai fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur le pôle, etc. » Et bien sûr, l'affaire s'est passée comme il l'avait dit, comme il l'avait prié dans son cœur. Je relis le verset. « Avant que j'ai fini de parler à mon cœur. » Je voudrais que vous reteniez bien cette parole. D'ailleurs, on va aller dans le psaume 4 qui en parle. Et on va voir que ça ce soir. Et je voudrais que vous en soyez convaincus. Cela vous aidera à veiller sur vos pensées. Parce qu'il s'en passe quand même des choses dans la tête tout le long de la journée. Dès qu'on se réveille, clac, le disque dur, il se met à... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Dans le psaume 4, David termine le psaume vraiment, non pas, c'est le verset 5, pardon. Il donne des instructions, il pose des questions, et puis tout d'un coup, verset 5, il y a une exhortation extraordinaire. On voit que Dieu veut que l'on vive ces choses. Parce qu'il n'y a pas que les paroles, les actes, la force. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, il faut bien comprendre ce que l'on va lire. Psaume 4, verset 5, « Tremblez, ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis, taisez-vous. » Bon, là, c'est plus dur, mais comment vous interprétez ce verset? « Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Et le verset 9 montre qu'il y a eu une acceptation. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Donc, ce soir, je voudrais vous parler de ces prières en pensée, dans nos pensées. Il y a plusieurs formes de prières. Il y a plein de formes de prières. On n'en parle pas souvent, en fin de compte, mais il y a plein de formes de prières. Quand vous dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, est-ce que c'est une prière? Oui. Ça s'appelle une prière d'accompagnement dans la Bible. Quand vous dites à quelqu'un que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, des fois on le dit, mais c'est considéré comme une formule, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous voyez, dans une église, on pourrait chaque fois terminer en disant que la paix du Seigneur soit sur vous. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce que vous pouvez le faire dans un courrier? C'est vraiment une prière. Et il ne faut pas que nous tombions dans la formulation, dans l'habitude. Quand vous dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, il faut vraiment que ça soit une bénédiction. C'est important, frères et sœurs. Donc, ça s'appelle une prière d'accompagnement. Il y a des prières de contemplation. On est dans le psaume 4, je crois que c'est dans le psaume 5. Oui, psaume 5, verset 8. C'est bien que vous compreniez, que vous réentendiez qu'il y a plusieurs formes de prière. Regardez, psaume 5, verset 8. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple. » Comment ? Avec crainte. Vous savez, la crainte, le respect, on en a parlé deux fois de suite. C'est important que nous comprenions combien nous devons avoir du respect, non seulement dans la maison de Dieu, bien sûr, mais en tout temps. « Je me prosterne. » La prosternation, ça peut se faire comment ? À part le fait d'être physique, ça veut dire que dans notre cœur, il y a beaucoup de contemplation. Nous adorons Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre la louange et l'adoration ? C'est pas pareil. La Bible dit « louer Dieu et adorer le Seigneur ». Est-ce que vous arriveriez à m'expliquer la différence ? La louange, on est quand même concerné par l'ange. Quand on loue Dieu pour le salut de notre âme, en fin de compte, c'est qui est bénéficiaire ? C'est nous. Hein? Seigneur, je te loue pour le salut de mon âme. Ça converge sur nous. Je te remercie pour le repas que tu m'as donné. Ça, c'est des actions de grâce. Vous voyez ? Quand vous dites au Seigneur merci, mais ça s'appelle des actions de grâce. Est-ce qu'il est demandé dans la Bible de faire des actions de grâce ? Oui. Est-ce que vous avez remercié Dieu aujourd'hui pour ce qu'il vous a donné ? Vous l'avez remercié ? Vous savez que toutes les 11 secondes, il y a un enfant qui meurt de soif. Toutes les 11 secondes, toutes les 20 secondes, il y en a un qui meurt de faim, enfin toutes les... Vous regardez, si vous voulez vérifier mes propos, vous tapez sur Google planetoscope.com et vous allez voir le listing de la mortalité dans le monde, vous allez voir, ça fait vraiment peur. Je l'ai tiré là hier soir, ou hier matin. Donc, se prosterner devant Dieu, c'est quelque chose... Alors, la louange, c'est tout le temps moi qui, quand même, suis au bénéfice de ce que Dieu a fait. L'adoration, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, l'adoration... C'est que Dieu. Seigneur, je t'adore parce que tu es Dieu. C'est pas nous. C'est vraiment que lui. C'est important, mes frères. Est-ce que vraiment vous faites partie de ces gens qui sont heureux de vivre dans les actions de grâce, ce qui est excellent. Quelqu'un qui est rempli d'actions de grâce, c'est vraiment bien. Quelqu'un qui est rempli de louanges, c'est excellent. Quelqu'un qui est rempli d'adoration, moi j'aimerais des fois qu'on appelle nos cultes du dimanche matin des cultes d'adoration. Mais bon, on ne va pas jouer les analystes des cultes. Mais quand même, ça, vous ne croyez pas que ça plairait à Dieu si on n'avait que des cultes. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Que ça soit que pour lui. Il y a des gens... Alors, je ne veux pas juger parce que quelqu'un peut venir dans le deuil, dans la souffrance, dans l'affliction. Est-ce que quelqu'un de l'affliction a le droit à un culte de répandre son cœur devant Dieu ? Mais bien sûr que oui. Mais quand même, vous ne croyez pas que le dimanche matin, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on pourrait... qu'avoir que des paroles d'adoration. Vous ne croyez pas ? Vous ne croyez pas que ça plairait à Dieu ? Que tout converge vers sa présence, vers ce qu'il est. L'adoration, c'est ça. Dieu, c'est Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Père, tous les attributs qui font qu'on l'adore. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il y a des chrétiens qui n'adorent jamais. Alors, est-ce que c'est à nous de les corriger ? Non, c'est à eux peut-être de chercher Dieu, comme on l'a entendu dans les chants, de contempler le Seigneur, parce que je crois que quand on contemple le Seigneur, on finit par l'admirer à lui. Moi, des fois, je connais certaines étoiles. Vous savez, à Toulouse, on est mal placé pour bien les voir, mais souvent, quand je sors de ma voiture, je tombe en face de la constellation d'Orion, et dans la constellation d'Orion, il y a l'étoile Bételgeuse, vous savez, qui est... Bételgeuse, elle est 650 fois plus grosse que le Soleil. Je ne sais pas si vous regardez déjà la petite boule que c'est. Imaginez une étoile comme ça, là, qui tous les soirs, au même endroit, ben, ça bouge un peu. Mais quelle bénédiction. Dieu a fait de grandes choses. Alors, est-ce qu'on peut adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait ? Nous ne nous rendons pas compte combien nous devrions nous prosterner. Alors il y a l'adoration, il y a le silence. Le silence. Est-ce que... Vous savez, quand on voit tous ces gens, on va voir les gens qui ont fait que parler dans leur cœur et qui ont été exaucés. Ils n'ont pas prononcé les paroles. La contemplation, ça nous parle d'adoration, mais ça nous parle aussi de silence. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il est dit « faites silence devant Dieu » Est-ce qu'il y a des vers, est-ce que vous pensez à un verset? Il est bon, hein? Comment vous le considérez, ce verset, le silence devant Dieu? Est-ce que ça vous arrive des fois de rester en silence devant le Seigneur? C'est vraiment une... Je crois que ça doit plaire à Dieu quand vous vous tenez en silence, seul. Il voit que vraiment vous voulez être seul avec lui. Vous ne croyez pas que c'est bien ça? Là, vous lui prouvez. Enfin, quand c'est vrai, ben, moi, je pense que c'est vrai. On montre au Seigneur cet attachement. J'ai besoin d'être seul avec toi. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je fais quelques tours avant de revenir à mon sujet. Bon, j'ai parlé des actions de grâce, des requêtes. Faites en tout temps des requêtes. Les requêtes sont des prières qui reviennent. On les fait plusieurs fois par jour, des fois. On les fait pendant des années. On a un enfant inconverti. Eh bien, tous les jours, on prie pour lui parce qu'on combat. Ça devient le bon combat de la foi. Seigneur, je te prie de sauver son âme. Est-ce que ça peut arriver qu'on peut avoir 20 fois dans la journée le fardeau pour une même personne? Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Eh bien, 20 fois, Seigneur, je te prie pour la ville de Toulouse. J'ai le fardeau des âmes ou des fils prodigues de Toulouse. Eh bien, voilà, 20 fois le fardeau vient. C'est une... Les fardeaux, il faut que ça soit interprété d'une manière intelligente. Les fardeaux, ce n'est pas pour nous écraser. Les fardeaux, ça entretient également ce bon combat de la foi. Le fardeau, il vient 30 fois. Eh bien, 30 fois, je dépose ce fardeau au pied du Seigneur dans un acte de foi. Et ça entretient le combat spirituel. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Il est parlé des supplications. Il y a des choses, c'est des requêtes quand on nous demande de prier pour... Pour des chrétiens en Inde qui sont persécutés, voilà, on supplie Dieu, mais on prie pour Dieu, mais quand c'est des choses qui nous touchent, c'est drôle, comment c'est plus facile des supplications. Hein. Vous avez eu quelqu'un de proche, de très malade? Est-ce que ça vous est arrivé de voir quelqu'un que vous aimiez? Et bien là, ça devient des supplications. Alors, et puis après, même, ça peut devenir des pleurs. Alors, on va parler des pleurs, tiens, quelques instants. Pleurs, le psaume 6... Puisqu'on est dans les psaumes, David n'est pas trop en forme, il est confronté à des difficultés. Au verset 4, il le dit. Au verset 3, mais voyez, pitié de moi, guéris-moi, mes os sont tremblants. Vous voyez qu'on peut trembler. Hein. Ce n'est pas interdit d'être malheureux. J'en profite pour vous dire, quand quelqu'un tremble et qu'il est malheureux, est-ce qu'il peut être avec le Seigneur? Et la preuve. La preuve, c'est que David, lorsqu'il est dans ces moments d'angoisse et de tremblement, s'il écrit un psaume qui est inspiré, ça prouve quoi? Que Dieu est avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Il est tremblant. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Moi, il commence à douter. Reviens, délivre-moi. Mon âme est toute troublée. Hein? Mon âme est troublée. Pourtant, ben oui, Dieu est avec lui. Alors, verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit... Ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Alléluia. Vous pouvez dire Alléluia, ou Amen. Vous trouvez que c'est bien que Dieu sache quand vous pleurez? Ça vous est déjà arrivé de pleurer? Oh, arrête de pleurer, arrête de faire la nunuche. Hein? Mais il n'y a pas un temps pour pleurer. On n'a pas besoin de pleurer. Qu'est-ce que c'est ce cinéma? Moi, je me souviens quand j'étais petit, on était à la campagne. Et dès qu'un garçon pleurait, un garçon, ça pleure jamais. Alors moi, je disais, bon, les filles, elles peuvent pleurer. Et nous, on ne peut pas? Non, un garçon, ça ne pleure pas. Et puis quand j'ai découvert la Bible, quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que presque tous les hommes de Dieu ont pleuré. Presque tous. Même Jésus. Il y a un temps pour pleurer, et nos prières et nos larmes peuvent être de véritables prières. Regardez le psaume 69. C'est bien quand même, parce qu'il faut qu'on soit rassuré. Vous savez, notre Dieu, il est là pour nous rassurer. C'est normal de pleurer. Après, il faut pas pleurer tout le temps non plus. Psaume 6, verset 9, parce que Dieu est capable de nous dire « arrête de pleurer ». Est-ce que déjà Jésus a dit à des personnes « arrête de pleurer » ? Oui, il y a un temps pour tout. Voyez, verset 11, C'est important, frères et sœurs. Vous savez, on a un Dieu qui nous comprend. Vous voyez, psaume 69, verset 11, « Je verse des larmes et je jeûne. » Vous voyez, etc. Le psaume 56, vous voyez, psaume 56. Oui, c'est encore plus beau. Vous savez, on a besoin d'être rassurés. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il y a un temps pour rire. Vous aimez rire? Est-ce que vous aimez rire? Ben oui. Est-ce que c'est bien de rire? Oui. Moi, je ris. Et en plus, moi, je pleure facilement. Mais moi, tout me va bien. Tout me va bien. Psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Quelqu'un a dit, j'avais beaucoup aimé, j'avais lu un livre sur la prière, et le pasteur disait que les larmes, ce sont des paroles liquides. J'avais trouvé ça joli, poétique, et même vraiment spirituel en même temps. Vous voyez, on peut conjuguer les deux. C'est vrai, des paroles liquides. Et d'ailleurs, c'est biblique, puisque c'est même, elles sont inscrites dans le ciel, parce qu'elles représentent une forme de prière. Et je crois que nous devons veiller les uns sur les autres. Si quelqu'un pleure, eh bien on peut pleurer avec lui. Si quelqu'un rit, on peut rire avec lui. Moi, je me souviens l'an dernier, je vous le dis, parce que ça m'avait vraiment quelque chose. Le matin, à 7h30, mon fils, Lucas, il m'appelle et il me dit « Papa, Leslie a accouché, on a un petit garçon, etc. Il est né le 7, à 7h07. » Alors, il était content comme tout. Tout ça, bon, c'est mon fils. Hein. Et on parlait, je me réjouissais d'avoir un petit-fils qui s'appelle Go. En fait, bon, je veux dire, ah, c'est bien. Et juste après, Madame Bordeneuve qui m'appelle pour me dire « Monsieur Go, on vient de perdre notre fils. » Je m'en rappellerai, c'était le 7 mars, je m'en rappellerai, parce que, voyez, d'un côté, je ne pouvais pas ne pas me réjouir pour mon fils, mon petit-fils. On est parti le voir à la maternité, et en même temps, mon cœur était... Vous savez, c'est dingue, c'est paradoxe. D'un côté, une joie de voir votre petit-fils, et de l'autre, un frère qui a perdu un de ses fils. Franchement, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je me disais, Seigneur, c'est quand même difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est là qu'on réalise que c'est la vie. Et si la Bible parle de toutes ces formes de prières, c'est important que nous développions, parce que chanter un cantique, oui, Seigneur, plus près de toi, oui, plus près de toi, bon, c'est un beau cantique, mais quand même, il faut que je le vive, cette affaire. Et il y a un temps pour prier, il y a un temps. Jacques, il dit, mais si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais est-ce que ça veut dire parler à Dieu, ou est-ce que ça veut dire écouter Dieu prier? Vous voyez, parce que quand Jésus dit « ma maison sera une maison de prière », ça veut dire quoi? Une maison où on ne fait que parler? On parle à Dieu parce qu'il faut prier? Non. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie? C'est peut-être inclure toutes les formes de prière que nous venons de voir. Eh bien oui, j'ai besoin de pleurer. Des fois, pleurer, ça fait du bien. Il y a 10 ans en arrière, le 30 mars, j'ai pleuré toute la journée pour une situation qui m'avait vraiment fait du mal. Vraiment fait du mal. Mais ça m'a fait du bien. Et le soir, j'avais plus de larmes, ça c'est sûr. Et personne ne m'a repris, tout le monde m'a encouragé, parce que c'était une situation qui concernait bien sûr l'Église. Dieu connaît nos larmes, nos soupirs. Vous connaissez ce verset dans Romains, on peut le lire. Vous savez, c'est important. Parce que la prière, ce n'est pas qu'un temps que je bloque devant Dieu le matin, une heure avant d'aller au travail, ou un quart d'heure, ou 20 minutes, c'est pas ça la prière, c'est pas que ça, ça en fait partie. Dans Romains, au chapitre 8, vous savez, je vous donne ce témoignage parce que quand j'étais en formation pastorale, je me posais des questions sur la prière. Quand vous êtes jeune pasteur, vous vous posez plein de questions, c'est normal. Et justement, là, il y avait une chrétienne qui allait souvent faire des visites à l'hôpital. Et c'était une chrétienne qui était vraiment maladroite, vraiment pas spirituelle. Et quand les gens étaient malades, tout ça, elle disait, tu pries au moins, j'espère que tu pries. Hein? Ah ben non, je suis crevé, je suis fatigué. Il te faut prier, si tu aimes le Seigneur, il te faut prier. Et puis la femme du pasteur, Madame Berthelon, a été visiter cette dame. Elle lui a dit, vous priez ? Elle lui a dit, non, je ne prie pas. Mais elle lui a dit, mais vous ne priez pas, mais vous ne soupirez pas après Dieu ? Et elle a lu ce verset, Romains 8. Et cette femme, elle a été bénie. Vous savez, mes frères et sœurs, soyons pleins de compassion, de vérité et de compassion. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit avec une majuscule, dont le Saint-Esprit, car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Est-ce que ça vous arrive de ne pas savoir ce qu'il faut demander ?
Ben oui, c'est pas un péché.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit intercède par des soupirs. Voyez, quelqu'un peut être très, 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 très fatigué, ne pas pouvoir avoir la force de prier, mais en vérité, ses soupirs. Écoutez, j'espère que vous êtes d'accord avec la parole. Ses soupirs sont des prières. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, mes frères et sœurs, on prie beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça vous rassure ? C'est important parce que, vous savez, le diable, c'est quand même l'accusateur des frères. Il est dit dans la Bible qu'il accuse les frères combien de temps ? Jour et nuit. Et il y a des chrétiens qui sont continuellement dans la fausse culpabilité. La bonne culpabilité, c'est bien. Je suis léger, j'ai péché, je ne suis pas sérieux avec tel domaine, je me sens coupable, c'est très bien. Comme ça, ça me permet de me repentir. Mais la fausse culpabilité, si vous n'avez pas pu prier pendant 3 jours parce que vous avez eu un choc, un deuil, une affaire violente, mais le Seigneur vous rappelle que vous pouvez, par des soupirs inexprimables, lui parler et que lui, en tous les cas, il connaît la pensée. Dieu connaît les pensées. Vous avez vu dans les évangiles le nombre de fois où Jésus dit « Mais Jésus connaissait leurs pensées ». Ils connaissaient leurs pensées. Et c'est pour ça que je voulais prendre notre texte, un texte négatif maintenant, sur les cœurs. Dans 1 Chronique, il y a une femme, bon c'est sûr qu'elle n'avait pas été aidée par son père, ça, mais en fait ce n'est pas une raison. Dans 1 Chronique, au chapitre 15, est-ce qu'on peut mettre la faute sur nos parents ? Dites-moi. Mais non. Elle s'appelait Michal. Michal, c'était la fille de Saül. Du roi Saül, il l'avait eue pour femme, bon, ça, il y avait eu un petit peu de... C'était des mariages arrangés, mais enfin bon, ça fait rien. Et David ramenait l'arche à Jérusalem, c'était le souci de ramener l'arche qui représentait la présence de Dieu, et bien sûr, David était dans une joie réelle. Et en tant que roi, bien sûr, peut-être qu'il a un peu débordé dans son exaltation, mais enfin, elle était quand même justifiée. Quand Dieu est là, je crois que... On doit le savoir, l'exaltation. 1 Chronique, chapitre 15, verset 28. Tout Israël, on va dire 27. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres de Kenania, chef de musique parmi les chantres. David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et des harpes. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle le méprisa, comment ? Dans son cœur. Vous savez, c'est écrit. Et nous devons faire attention à ce que nous pensons. Elle aurait peut-être dit, mais pourquoi tu étais autant exaltée ? Vous voyez, ça aurait été le problème. Pourquoi tu étais autant exaltée ? Elle lui aurait expliqué. David lui aurait dit, mais tu sais, tu ne te rends pas compte. Pendant du temps de ton père, bon, je sais qu'ils se sont expliqués après, mais du temps de ton père, on ne s'est pas occupé de la présence de Dieu. Et maintenant, on s'en occupe. Et je me réjouis parce que Dieu va être avec nous. La présence de Dieu va revenir au milieu de nous. La présence de Dieu va se manifester. C'est pour ça que j'étais tout exaltée. Mais elle l'a méprisée dans son cœur. Et le résultat, vous connaissez le résultat ? Ce n'est pas écrit là, c'est écrit dans un autre livre. Le résultat, c'est qu'elle est devenue stérile. Alors, je ne dis pas que la stérilité est forcément... Souvent, on voit bien des femmes stériles qui étaient super spirituelles, d'ailleurs. Mais la souffrance a mené à engendrer une bénédiction. Mais il y a aussi des conséquences à mépriser dans notre cœur. Personne ne le voit. Personne ne le voit. Mais Dieu le voit. Elle l'a méprisé dans son cœur. Et que Dieu nous garde. Il faut veiller sur son âme. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Je l'avais mis d'ailleurs, c'est le Proverbe 3, verset 23, je crois, 23. Hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voyez, et vous serez étonné si vous recommencez à lire la Bible et si vous vous arrêtez chaque fois qu'il est dit dans son cœur. Et là, il y a quelques exemples négatifs, il y a beaucoup, dans le Nouveau Testament, ce sont souvent des religieux, des pharisiens, des gens qui jugeaient les paroles de Jésus-Christ. Lorsque ce pharisien qui avait reçu Jésus et que cette femme de mauvaise vie est venue se jeter à ses pieds, et il se disait lui-même, s'il savait de quelle espèce, vous voyez comment il parlait de cette femme, de quelle espèce est cette femme. Et Jésus connaissant sa personne, et lui, qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire ? Eh bien, elle est de la même espèce que toi. Mais non, il a pris le temps de lui expliquer que cette femme avait beaucoup péché et qu'elle avait besoin de faire ça. Vous savez, c'est bien quand on est spontané et qu'on est vrai et qu'on fait ce qu'on a à cœur de faire. Et bien sûr, Dieu va donner, bien sûr, Jésus, dans sa pédagogie extraordinaire, va expliquer et va dire à cette femme qu'il y a même pas, elle n'a pas dit un mot, elle n'a pas dit un mot. Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on est obligé de parler à haute voix ? Ben non, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Un des exemples les plus connus, c'est dans le livre de 1 Samuel. C'est magnifique. Et en plus, c'est une femme qui est pleine d'amertume. Vous savez, des fois, on a fait du mal aux gens. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de faire du mal à quelqu'un par des paroles ? Oui. Il n'y a que Madame Loukouni ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Est-ce qu'on n'en a pas été malheureux de faire du mal à des gens ? Si j'avais su. Et c'est vrai qu'on est tous pareils, ne jouons pas les comédiens. Vous savez, c'est bien l'honnêteté. Dans Samuel, voilà, une femme qui est stérile. Pourquoi elle était stérile ? Pourquoi Rebecca était stérile ? Pourquoi Sarah était stérile ? Pourquoi Élisabeth était stérile ? On pourrait prendre la liste. Pourquoi la femme de Samson était stérile ? Je le répète, parce que la souffrance, ça génère, quand on surmonte le mal par le bien, ça génère une bénédiction. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer réellement. Je sais que toutes mes épreuves m'ont amené à faire quelques petits progrès. Et là, nous voyons une femme qui souffre. Il y a beaucoup de souffrance. Dans 1 Samuel, bon, allez, on va lire à partir du verset 5. Le premier. Bon, le mari faisait de son mieux. Vous savez, après, il y a des gens, humainement, on fait de notre mieux. Un frère, une sœur, un chrétien, un pasteur, on peut faire certaines choses. C'est bien quand on peut faire certaines choses. C'est bien, il faut le faire. Demandons à Dieu ce que nous pouvons faire au niveau humain, qui peut se projeter spirituellement. Mais on le voit, voyez. Verset 6, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Et je peux vous dire qu'elle était droite, cette femme. Sa rivale, donc c'était la deuxième femme, comme quoi, vous voyez, la monogamie, c'est quand même mieux. Sa rivale lui produisait des mortifications. Vous voyez, alors elle était stérile. Regardez bien la liste de souffrances. Des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Toutes les années, ça n'a pas duré 6 mois, toutes les années, c'était pareil. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors, qu'est-ce qu'elle faisait ? Eh bien, elle pleurait et ne mangeait pas. Aujourd'hui, on dirait qu'elle était anorexique. Vous voyez, rien que dans ces trois versets, vous voyez, il y a déjà énormément de souffrance. Et c'est une femme qui aime Dieu. Elkana, son mari lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu ? Et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Donc, vous voyez, elle était attristée. « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Bon, mais ça, c'est les hommes, on essaie de dire aux gens que, bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais enfin, c'est bien d'essayer. Alors, verset 9, ça sera Ça sera peut-être la clé de ma prédication par rapport à ces pensées. Anne se leva. Tous les âles se levaient. Mais vous savez, c'est une chose de se lever pour marcher physiquement. C'en est une autre de se lever devant Dieu. Et quand souvent on le voit dans la Bible, il se leva, elle se leva. Ça veut dire, voilà, il a pris la décision. Il a pris une décision, comme on peut la prendre maintenant. Oui, j'accepterai mes pleurs, j'accepterai mes soupirs, j'accepterai mes silences, etc. Et je me lèverai moi aussi. Regardez bien, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, alors encore, un qualificatif de souffrance, et dans quel état elle est? Dans quel état elle est prise? Elle est comment? Vous ne m'aidez pas. Hein? Dans l'amertume. Vous voyez, c'est délicat, ça, dans l'amertume. Il y en a qui disent, ah mais moi j'en ai marre, j'en peux plus, je prie plus. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle a été dans la maison du Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Malgré l'amertume, elle prie. Et faisons attention, lorsque nous sommes confrontés à la douleur, de la souffrance, de ne pas tout envoyer balader. Mais au contraire, je suis pas content, je suis fâché, et bien je vais me tenir devant le Seigneur. Est-ce qu'elle a bien fait d'après vous? La suite, vous allez voir. Et elle versa des pleurs, voyez. Mais il y en avait un qui regardait. Il y avait le pasteur qui regardait, qui n'avait pas trop de discernement, mais il y en avait un qui regardait bien. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, encore un mot qui indique la souffrance, l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Vous voyez ça? Elle avait besoin. Est-ce qu'il faut prier longtemps? Oui ou non? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je crois que ça vaut la peine de rester dans la présence de Dieu le temps que nous devrions y rester. Ça, c'est à chacun de le... Ce n'est pas au pasteur à vous le dire. Élie observa sa bouche. Anne, alors regardez bien, c'est le verset qui nous a induit dans cette prédication. Anne, comment elle faisait? Elle priait fort dans le temple. Anne parlait dans son cœur, si j'ai bien compris la version de Claudine, tu vois, intérieurement. C'est beau. Est-ce que c'est pas beau? Elle était là, à genoux peut-être. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, comme vous voyez certains serviteurs qui ont un discernement merveilleux. Et il lui dit, je le dis parce que vous savez, c'est dur quand on n'est pas compris par un pasteur. Et regardez bien, en plus, il va lui faire une remarque. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Il a cru qu'elle était ivre. C'est vrai qu'il avait l'habitude de voir ses fils. Anne répondit, non, mon Seigneur. Regardez, elle a eu de l'amertume. J'ai l'impression que son amertume est quand même passée. Vous ne croyez pas? Il s'est passé quelque chose, elle est restée longtemps dans la présence de Dieu, et dans la prière, dans la réponse qu'elle va faire, on a l'impression qu'elle a été guérie de son amertume. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais, mon âme, devant l'Éternel, ne prends pas ta femme pour une femme pervertie, car, regardez bien, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est beau quand même, hein? Mais on n'a pas l'impression qu'elle est dans la colère. Elle a souffert, elle le dit, et elle répond. Elle aurait pu dire, non mais franchement, quand je vois ce pasteur, c'est même pas la peine. Ils n'y comprennent rien. C'est vrai que beaucoup de pasteurs ont un discernement terrible. Mais cette femme, elle est restée longtemps dans la présence de Dieu, et Dieu a agi dans sa vie. Elle n'a pas dit un mot à haute voix, elle a parlé dans son cœur, elle faisait que remuer ses lèvres. Verset 17, bon, Élie se ressaisit, il comprend qu'il a fait une erreur. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Oui, c'est une prière ça. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je vous parlais tout à l'heure de prière d'accompagnement, voilà c'est ça. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, bon, elle a fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à manger, parce que c'est bien aussi de se restaurer. Hein? Et son visage ne fut plus le même. Il s'est passé en vérité qu'une chose, elle a parlé à Dieu dans son cœur. Elle n'a pas tenu compte de Pénina, de l'incapacité de son mari qui ne pouvait pas l'aider. N'en voulez pas à quelqu'un qui ne peut pas vous aider. Faites-vous cette grâce. Ne dites pas, oui, c'est sa faute, il devrait m'aider, il est là, mon père, il devrait m'aider, ma mère, elle devrait faire ci, ou telle personne, il devrait... Bien sûr que... Demandez peut-être de l'aide. Moi, des fois, on m'a dit, vous savez, monsieur Gauss, c'est pas bien ce que vous faites, il y a un frère dans l'église, il a le besoin, vous l'aidez pas. Mais ça serait bien que vous me le disiez. Alors, des fois, on ne le sait pas, on peut pas aider des gens si on ne connaît pas les besoins. Oui, c'est quand même, on doit être... Il y a un minimum d'intelligence. Parlons pas d'être spirituel. Et si les gens ne peuvent pas vous aider, si le pasteur n'a pas beaucoup de discernement, je vais vous dire, c'est pas ça qui empêchera Dieu de vous bénir. Tant mieux si les pasteurs ont un minimum de discernement. Tant mieux s'il aurait pu lui dire, écoute, compte sur la grâce de Dieu. Ça fait des années que ça dure, mais tu connais, tu sais très bien que Dieu est fidèle. Vous voyez, il aurait pu lui dire quelque chose comme ça. Mais il avait un peu d'un problème de cécité. Et... Mes frères et sœurs, il y a plein de prières. Et je crois que ça vaut la peine, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, d'amener nos pensées captives à l'obéissance. Quand il dit aux Philippiens que tout ce qui est vrai, honorable, vertueux, digne de louange, etc., soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et je crois que ce n'est pas à nos pensées à nous balader. Ce n'est pas nos pensées, parce que des fois, ça ne vous arrive pas des fois d'avoir des pensées complètement débiles. Est-ce que il n'y a qu'à moi que ça arrive? Non, mais est-ce que des fois vous n'avez pas des pensées complètement malades? Oui ou non? Timothée, vous avez dit non? Avouez que des fois on a des pensées complètement débiles. Oui ou non? Heureusement qu'on ne lit pas ses pensées, qu'on ne nous lit pas dans ses pensées. Mais c'est pour ça que Paul dit, amenez vos pensées captives, ce ne sont pas nos pensées à nous contrôler. Et c'est vrai que la prière intérieure, chanter intérieurement, vous aimez chanter intérieurement, méditez. Moi je vous assure, je vous l'ai dit une fois, c'est tout à ma honte. Hein. À une époque où je n'allais pas bien, où j'avais moi aussi de l'amertume dans mon cœur, je m'étais rendu compte que je prenais la Sainte Cène en pensant à autre chose. Mais vraiment en pensant à autre chose. Je me suis dit, quelle honte, le pasteur de l'église n'était pas ici, mais enfin, il y a longtemps. Mais j'ai eu une honte. Et depuis ce jour-là, je me suis imposé, chaque fois que je prends le pain et le vin, chaque fois qu'on chante un cantique, je réfléchis à ce qu'on chante. Je me fais violence. Parce que je crois qu'on peut amener nos pensées captives à l'obéissance. Que le Seigneur nous aide. Il nous aidera. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Oui, la prière, c'est pas que... La prière en haute voix dans une église, ça en fait partie. Et je pense que c'est utile parce que des fois, on entend la prière de quelqu'un, et bien ça nous fait du bien. Moi, vous voyez, tout à l'heure, sincèrement, j'ai entendu notre sœur Karine qui a prié le Seigneur, notre sœur qui a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Et bien franchement, moi, je ne sais pas vous, mais moi, Karine, votre prière, elle m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse, vraiment. C'est beau, hein, franchement, vous ne trouvez pas? Franchement, c'est beau. Et on a besoin des prières des uns et des autres, mais n'oubliez pas que vos pensées peuvent se transformer en prières. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire un truc pareil. Vous ne croyez pas? Non mais vous réalisez, parce que je n'ai pas parlé des conséquences, vous réalisez que vos pensées peuvent se transformer en prières. Et le but quand même de la prière, ce n'est pas la prière. Le but de la prière, c'est d'obtenir. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit? Parce que c'est quand même écrit dans le Saint-Livre. Et si Dieu nous en parle, c'est pour que nous déculpabilisions de toutes ces bêtises que l'on a. Si vous pleurez, eh bien, ne vous tracassez pas. Des fois, il vaut mieux pleurer que de devenir dur comme une pierre. Voilà. Mais par contre, si vous pleurez trop longtemps, on vous dira, ne pleure pas trop. Hein? Parce qu'il faut aussi s'encourager les uns les autres. Hein? Il faut quand même veiller les uns sur les autres et pas tomber dans une sinistrose chronique. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Hein? Il entend la voix de mes larmes. Et tout à l'heure, quand vous serez sous votre couette, vous pouvez dire au Seigneur, merci déjà pour ma couette. Vous avez déjà jamais, je vous avais jamais remercié Dieu pour votre couverture. Si vous le faites pas, allez sur le site et vous allez voir combien de gens à Midi-Pyrénées sont morts de froid l'an dernier. De SDF sont morts de froid. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est leur faute, ils ont qu'à retourner chez eux. C'est vrai. C'est peut-être vrai. En tous les cas, vous pouvez bénir Dieu pour tous ses bienfaits. Et même celui d'avoir une église et un pasteur. Vous le faites des fois ? On le remercie, le Seigneur. Que Dieu soit béni. Notre Père, notre Dieu, il n'y a que toi, vraiment que toi, qui pouvais nous dire ces choses. La façon dont tu bénis les hommes, au travers d'un soupir, au travers de larmes, au travers de pensées, même dans l'amertume. Vraiment, Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants d'avoir voulu que ta maison soit une maison de prière, mais nous sommes ta maison. Nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Et nous te remercions de nous avoir montré que même sur notre couche, même tout à l'heure, lorsque nous allons nous assoupir avant de nous endormir, tu peux exaucer nos prières qui sont que des pensées. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Et ça s'appelle une prière.